pour moi d'être parmi vous en cette fin de semaine. Oui, alors ma vie a été consacrée. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'études. J'ai travaillé 20 ans dans le domaine de la recherche. Et puis maintenant, ça fait 8 ans que je travaille plus dans l'industrie. Et donc, ce que j'aimerais partager un petit peu avec vous ce soir, ça va être frustrant parce que je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. On a à peine une heure ensemble. On pourrait passer des jours et des jours à discuter. J'aimerais aborder un petit sujet sous une autre forme que d'habitude. On parle beaucoup du débat évolution-création. Dieu a-t-il créé? Dieu a-t-il utilisé l'évolution? Comment voir les choses? Comment voir la Bible? J'aimerais l'aborder du côté de la nature d'abord. Vous savez, dans notre société, nous nous trouvons face à du scientifiquement correct. Scientifiquement correct, et donc tout est passé au crible de la science. Tout. Absolument tout. Et donc, la Bible n'échappe donc pas à ce filtre. La Bible va être vue et revue par l'archéologie, elle va être corrigée par la génétique, elle va être revisitée par l'histoire, et surtout, elle va être déformée par beaucoup, y compris par des évangéliques. Et j'aimerais aujourd'hui partager quelques données qui me font penser ou qui me font dire, mais et si les données de la science aujourd'hui nous conduisaient au Créateur ? Et si la science nous conduisait au Créateur? Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, déjà du temps de Léonard de Vinci. Vous connaissez tous Léonard de Vinci, je pense, il n'y a pas besoin de le présenter. Eh bien, Léonard de Vinci disait la chose suivante. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Et nous observons aujourd'hui dans notre société un retour à la nature, à tout niveau. Retour à la nature. Et donc, c'est d'actualité. Et donc, nous pouvons aller prendre des leçons dans la nature. Et d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Prendre des leçons dans la nature, la Bible nous dit déjà la même chose. La Bible, Job, nous dit déjà, Job, c'est un livre qui reflète une connaissance scientifique exceptionnelle pour l'époque. Exceptionnelle pour l'époque. Et certaines affirmations du livre de Job nous montrent ou font référence à ce que l'on a découvert il y a peu de temps. Donc Job déjà nous dit la même chose, ou prédisait la même chose que Léonard de Vinci. Interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront. Les oiseaux, elles te l'apprendront. Ou parle à la terre, elle t'enseignera. Les poissons de la mer te le raconteront. Donc va t'instruire dans la nature. Va prendre tes leçons dans la nature. Il y a une deuxième partie de la phrase qu'il ne faut pas oublier, qui est absolument essentielle pour nous chrétiens, mais aussi pour tout homme aujourd'hui sur la terre. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Donc il y a deux choses. On peut aller s'inspirer de la nature, mais après on doit en tirer les bonnes conclusions. Alors parmi les jeunes, il y a souvent quatre lettres qui sont répandus et que l'on a autour du cou ou sous forme de bracelet, WWJD. Non, What would Jesus do? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, il y a aujourd'hui un autre courant qui existe et qui est très fort dans notre société, qui est WWND. Et qui est What would nature do? Que ferait la nature? Eh oui! Je ne sais pas si vous avez suivi peut-être ces dernières décennies, mais depuis la découverte du Velcro par un Suisse, le Velcro, ça a été inspiré directement de la nature. Depuis la découverte du Velcro, eh bien, il y a un engouement pour aller étudier la nature et voir ce que l'on pourrait s'inspirer d'elle pour développer des choses au niveau technique, pour améliorer notre quotidien, pour faire des prouesses technologiques à tout niveau. Et donc, on va parler de biomimétisme, de biomimicrie ou de bio-inspiration. Et c'est de ça que j'aimerais un petit peu vous parler à l'aide de quelques exemples là, durant ces minutes que l'on va passer ensemble. Alors, les inspirations du vivant, mais après, on va faire les bonnes conclusions, d'accord? Donc, les inspirations du vivant vont toucher différents niveaux. On peut s'inspirer du vivant au niveau de la forme, du design, les formes adoptées par les êtres vivants. Je vais vous donner quelques exemples. On peut s'inspirer du vivant sous la forme de la stratégie, c'est-à-dire les matériaux, les processus de fabrication du monde du vivant. Et puis, troisièmement, au niveau des écosystèmes, c'est-à-dire les interactions qui existent entre les espèces et le fonctionnement des écosystèmes, au niveau des écosystèmes naturels. Donc, c'est de cela que j'aimerais vous parler. Vous en faites pas. On pourrait maintenant passer des jours à partager sur ces thèmes-là. Je vais vous donner juste quelques exemples parce que je pense que vous allez, sur la base de ce que je vais vous présenter, vous allez trouver dans votre vie quotidienne d'autres exemples dans les médias. C'est rempli, c'est truffé de choses que vous allez pouvoir ensuite discuter avec vos proches, avec vos collègues, avec vos voisins qui ne sont pas croyants et où vous allez pouvoir les interpeller. Donc je pense que ça vaut la peine que l'on dissèque un petit peu ces choses-là. Donc d'abord, pour commencer sur le design, les formes adoptées par les êtres vivants. Comment est-ce que l'on va s'inspirer de la nature pour faire quelque chose de concret au niveau de la forme? Eh bien, il y a quelque temps, c'était l'année dernière, j'étais au Japon et j'ai eu l'occasion de voir leur train à grande vitesse. Ça n'a pas été simple pour eux de mettre au point leur train à grande vitesse. Ils avaient un train donc, qui partait de Tokyo et qui partait de l'autre côté de l'île, avec un nombre considérable de tunnels à franchir entre Tokyo et Hakata. Et leur grand problème, c'est qu'à grande vitesse, chaque fois que le train pénètre dans un tunnel, et aussi quand il sort, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un choc, un vacarme absolument assourdissant qui est nuisible non seulement pour les passagers, mais aussi pour les riverains. Ça pose un grave problème. Pourquoi? Question d'aérodynamisme. Et donc, l'ingénieur qui était en charge de ce projet s'est demandé, mais WWND? Ben oui, bien sûr. Et Eiji Nakatsu a regardé un petit peu et s'est tourné vers le monde des oiseaux. Et s'est dit, mais y a-t-il un être vivant qui soit capable de gérer les changements rapides dans la résistance de l'air? Existe-t-il un oiseau, notamment, qui peut faire ça? Et il en a vu un, oui, le martin pêcheur. Le martin pêcheur, le bec du martin pêcheur ne sert pas seulement à attraper les poissons, mais sa forme permet à l'oiseau de pénétrer dans l'eau sans la moindre éclaboussure. Vous avez le bec allongé du martin pêcheur qui va amortir le choc du passage d'un élément à l'autre, du passage de l'air à l'eau et donc de la faible résistance de l'air à celle plus importante de l'eau. Et ça ne fait pas d'éclaboussure. Donc là, il y a quelque chose à tirer au niveau du passage d'un milieu à d'un autre. Et donc, l'idée finalement de développer leur train à grande vitesse avec un nez un peu particulier est directement inspiré du martin pêcheur. Et donc, le bec de la locomotive du Shinkansen a résolu ce problème d'entrée dans les tunnels, l'entrée du train dans les tunnels et la sortie. Fini le bruit et les vibrations inconfortables pour les passagers. Avec en plus une réduction donc, du boom sonique, une réduction de la résistance à l'air de 30% et une réduction aussi de l'énergie utilisée, parce que bien plus aérodynamique. Mais ça, on voit tout plein d'exemples. Donc, un exemple juste de forme. On va s'inspirer dans la nature et on va tirer quelque chose. Deuxième chose, ça va être sur les matériaux et les processus de fabrication qui sont présents chez les êtres vivants. Alors là, il y aurait plein de choses à dire. Mais il y a une chose qui m'intéresse pas mal, c'est parce qu'on cherche à améliorer les conditions des ménagères. Je cherche quand même à améliorer la condition aussi de mon épouse à la maison, qu'elle ait un petit peu moins de travail. Et donc, l'effet lotus est quelque chose qui attire mon attention. Pourquoi? Parce que la feuille de lotus est super hydrophobe. Elle a horreur de l'eau, vous voyez? La feuille, elle a horreur de l'eau. L'eau se retrouve à perler, enfin à s'accumuler, mais elle ne reste pas comme ça étalée sur toute la feuille. C'est bien particulier. Et donc, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 70, qui permet à la feuille de s'auto-nettoyer parce que l'eau va couler dessus, ne va pas rester. Et donc, en coulant, la goutte d'eau va entraîner aussi la saleté. Et donc, en étudiant cela, on se dit, mais voilà, on a la solution. Et c'est ce qui intéresse les fabricants de verre et de fenêtres comme Saint-Gobain. On a là une idée pour développer du verre auto-nettoyant. en s'inspirant de la feuille de lotus. Et donc, c'est aussi largement utilisé pour tout ce qui est béton, peinture, hydrofugé. Ce qu'il faut comprendre, et ça, on pourrait aller maintenant dans les détails, c'est qu'une goutte d'eau sur la feuille de lotus, elle va rester dans son état A, donc vraiment entre gouttes d'eau, elle ne va pas s'étaler comme ça pourrait le faire sur un matériel, un matériau qui serait hydrophile, donc qui retient l'eau. Et si vous allez regarder de près une feuille de lotus, voilà la surface d'une feuille de lotus. C'est plein de petits picots donc, qui font que la goutte d'eau se balade dessus et ne s'étale pas. Donc ça, c'est quelque chose qui fait pas mal rêver aujourd'hui et qui inspire aujourd'hui, qui existe dans la nature et qui nous permet de développer des technologies. C'est quelque chose qui est présent dans la nature et qui est bien fait, qui est tout à fait là. Alors, continuons. Parce qu'il y a des choses... Qui d'entre vous a vu le film Mission Impossible? On en reparlera. Le Gecko. Le Gecko, vous savez, c'est un petit lézard tropical qui défie les lois de la gravité. Alors là, il se balade à plusieurs mètres à la seconde, que ce soit sur les murs, au plafond, un peu partout. Et puis on se dit, mince, comment il fait, lui? Parce que même sur le verre, pouf, ça y va, quoi. N'importe quelle surface, qu'elle semble très lisse... ou rugueuse, non, ça passe, il n'y a pas de problème. Et donc, on voit que, finalement, si on regarde un peu plus près, on a l'impression que ce Gecko, dans ses pattes, c'est son secret pour se balader sur les murs, sur les plafonds, eh bien, on a l'impression qu'il a plein de petits poils, mais c'est qu'une partie de la chose. Qu'une partie. Je vais vous montrer ce que c'est vraiment. À l'échelle microscopique. En fait, chacun de ses membres, donc on a une diversité de formes, de couleurs aussi, chacun de ses membres est recouvert d'environ 500 000 poils minuscules que l'on appelle des setae. Et chaque extrémité de ces poils est lui-même divisée entre 400 et 1000 petites spatules qui vont, elles, être utilisées. Et c'est ça qui va faire, qui va pouvoir se balader à grande vitesse. C'est ahurissant. Donc, si on regarde un petit peu en détail, voilà les lamelles, entre guillemets, collantes qu'il a sur ses pattes. Alors, collante, ce n'est pas de la colle. Pourquoi? Si c'était de la colle, il resterait collé, il ne partirait pas. Ce n'est pas genre post-it où on peut décoller, non. Ça ne permettrait pas d'aller aussi vite que ça. Non. Donc, si on regarde bien, chaque membre est recouvert d'environ 500 000 poils, voilà, minuscules, donc là, de l'ordre de 500 000 poils. Vous voyez ces vagues de poils qui existent, mais ce n'est pas tout. C'est que ces vagues de poils, donc là, vous avez un poil en particulier, mais ici, la surface de ces poils est recouverte de petites spatules. 500 à 1000 petites spatules comme ça. Et donc, c'est ces petites spatules... Ça a été étudié, et ça, c'est du domaine de la physique quantique, parce que les forces d'interaction qui lui permettent de se fixer et de se décoller rapidement, ce sont des forces van der Waals. Pour les initiés, vous pouvez aller voir ce que c'est. Moi, ça me dépasse en tant que biologiste simple et ou généticien, mais c'est ahurissant. C'est de la haute technologie qui est présente dans chaque membre de ce petit lézard tropical. Et donc, on peut voir aussi, et on peut faire des essais, c'est que finalement, avec un seul de ces setae, donc un seul de ces poils, on peut soulever à peu près une fourmi. Et donc, 1 million de setae peut supporter la masse de 20 kilos et pourrait tenir sur à peu près une pièce entre 1 centime et 2 centimes, donc un dîme. Si on avait maintenant, si ce lézard pouvait utiliser tous les setae, donc tous les poils de ses quatre membres, il pourrait supporter une masse de 127 kilos. Il y a des essais qui ont été faits où, en laboratoire, on leur accroche des petits sacs à dos. Vous savez? Ah, mais c'est vrai. Et après, il y a aussi des choses où, en laboratoire aussi, on développe des choses de façon... alors, c'est du synthétique. On essaye d'imiter ces choses-là pour finalement grimper des surfaces lisses. Et donc, sur Internet, vous trouvez des petites vidéos de personnes avec des gants qui vont essayer de grimper des surfaces lisses. Et donc, par exemple, Superman... Ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mythe, ça peut exister vraiment. Donc là, vous avez un homme araignée, 15 cm, 40 grammes, qui est fixé à une plaque de verre par un adhésif microfabriqué de type Gecko. Et donc, le film Mission Impossible, Tom Cruise qui grimpe les buildings de Dubaï, c'est directement inspiré du GECO. Directement. Et vous savez, ce n'est pas l'homme qui a inventé ça. C'est déjà présent dans la nature de façon parfaite. Ça fonctionne et ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne tellement bien que nous, on aimerait bien savoir le refaire en tant qu'être humain. Et on essaye de le copier, mais c'est jamais aussi bien. Ouh, ça fait peur, ça. Frisson dans le dos, non ? Les araignées, c'est un domaine aussi, un autre domaine vaste, mais vous savez, j'aimerais vous donner quelques petits exemples que vous pouvez partager avec les personnes autour de vous. Les araignées, c'est un autre exemple qui fait rêver aujourd'hui. Pourquoi ? Oh, bien sûr, il y a des très belles toiles d'araignées, mais ce qui est important, c'est le fil, la soie de la toile d'araignée. La soie de la toile d'araignée, avec des propriétés absolument incroyables. C'est une soie qui ne sèche jamais, qui ne moisit pas et qui n'est pas dégradée par les bactéries. Ça, c'est quand même étonnant. Qui est élastique, puisqu'on peut l'étendre, vous pouvez essayer, ça peut être étiré sur à peu près un quart de sa longueur sans que ça casse. Et en plus, c'est extrêmement léger. Si vous prenez un fil d'araignée, si on pouvait l'avoir, qui fait le tour du monde, eh bien ce fil ne pèserait que 320 grammes. Pour combien ? 40 000 kilomètres, non ? C'est ça ? Oui ? Donc là, c'est quand même ahurissant. Produit par une petite araignée. Quelque chose d'aussi formidable. En plus, c'est le fil le plus solide qui peut supporter plus de 42 tonnes par centimètre carré. 42 tonnes par centimètre carré. Ça fait rêver. Si on pouvait fabriquer un câble de la grosseur du pouce avec du fil d'araignée, on pourrait soulever une dizaine d'autobus. Donc, aujourd'hui, c'est une technologie que l'on cherche à copier. Comment fabriquer du fil d'araignée ? Et c'était encore, pour ceux qui lisent les journaux scientifiques, c'était en une du journal Science. Vendredi ? C'était, je crois, vendredi dernier. Donc, la semaine dernière, c'était en une de Science sur la soie de l'araignée. Combien beaucoup essayent de le copier et peu y arrivent et personne n'arrive vraiment de faire exactement ce que fait une araignée. On essaye parce que les utilisations seraient diverses et variées. On pourrait faire des gilets pare-balles. Alors, dans notre époque actuelle, vous voyez, au lieu des 10-12 kilos que portent nos policiers et nos gendarmes, mon gilet pare-balles, un petit gilet pare-balles qui serait beaucoup plus résistant que les leurs, plus léger, ce serait formidable. On en rêve pour faire des sutures chirurgicales, du fil pour raccommoder, ben oui, au niveau biologique, parce qu'il n'y aurait plus de problème, il n'y a plus besoin de router les fils, et puis ce serait très léger et très solide. Du fil de pêche biodégradable, même des fibres optiques. Mais tout ça, c'est formidable. Mais il y a une particularité. Vous savez, quand... il y a une compagnie au Canada qui essaye de fabriquer du fil d'araignée, de la soie d'araignée. Alors déjà, vous ne pouvez pas le faire à partir d'araignées. Enfin, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un élevage d'araignées et puis essayer de les faire produire du fil d'araignée. Le problème, c'est qu'elles se bouffent entre elles. Elles sont cannibales. Donc elles se mangent entre elles. Donc vous avez du mal à faire un élevage. Donc une des solutions pour certaines, compagnies privées, c'est d'essayer de faire produire dans le lait de chèvre les constituants primaires de la soie de l'araignée. Alors ça permet de faire du fil d'araignée, de la soie, mais pas aussi bien, ça s'appelle le biostyle. Donc c'est quand même pas... mais il faut passer déjà par des étapes de... il faut manipuler génétiquement les chèvres. Après, il faut des étapes de modification, enfin d'extraction du lait de chèvre, des constituants que vous voulez. Et puis, après, il y a un processus encore pour extruder et que ça fasse à peu près le biostyle comme c'est. Si vous réfléchissez, comment l'araignée produit sa soie ? Elle produit à température ambiante. Et ça, c'est particulier. Il n'y a pas besoin d'usine. C'est sur une très petite surface. Et ça fait encore plus rêver nos ingénieurs, nos designers, nos concepteurs aujourd'hui et ceux qui aimeraient développer certaines choses au niveau technologique. La filière d'une araignée, c'est quelque chose qui, apparemment, est extrêmement simple. Tellement bien fait, optimisé pour produire de la soie. C'est ça? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Vous connaissez l'éponge à crevettes? Non, peut-être pas. Ça s'appelle aussi la corbeille de Vénus. On nous dit un des organismes les plus primitifs. Bon, je veux bien. Voilà, une photo, c'est quand même assez joli. C'est vrai que ça, peut-être c'est primitif. Il y a quelque temps, dans la revue Nature, c'était en 2003, il était parlé d'un organisme du fond des mers qui livre des secrets technologiques de pointe. De pointe. Pour un organisme primitif, c'est quand même pas mal. Des choses de pointe. Alors, c'est vrai que Euplectella, c'est comme ça que s'appelle cette éponge, elle vit dans des profondeurs entre 40 et 5000 mètres de fond. Mais elle montre combien, finalement, du matériel peut être organisé avec une très grande élégance. Et puis, surtout, elle a une particularité, c'est que cette éponge produit des sécrétions minérales. Des sécrétions minérales qui leur permet aussi de s'ancrer. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu ces sécrétions minérales avec des caractéristiques tout à fait étonnantes. Ces sécrétions minérales, finalement, c'est de la fibre optique. De la fibre optique qui fait rêver aujourd'hui les ingénieurs, les informaticiens de France Télécom ou d'ailleurs. Hein. Parce que c'est de la fibre optique qui ont des propriétés optiques plus performantes que celles qui sont utilisées aujourd'hui en télécommunications. Qui se forment, vous savez, pour faire de la fibre optique aujourd'hui, c'est pas tout simple. Hein. C'est pas tout simple. Ici, ça se forme à basse température dans la mer. Conditions liquides, ça ne pose pas de problème. Et surtout, comme c'est fait à basse température, eh bien, notre petite corbeille à Vénus, notre éponge, peut intégrer des additifs tels que des ions sodium qui vont améliorer les propriétés optiques. Avec en plus, comme ce n'est pas fait à des grandes températures, eh bien, on peut intégrer aussi du matériel organique à l'intérieur. Et donc, vous avez cette structure ici un petit peu en millefeuille, vous voyez, où là, vous avez des couches de matière organique entre les deux qui servent un petit peu comme de l'élastique, qui rendent un petit peu plus souple et surtout qui permettent une résistance et une flexibilité bien plus grande que nos fibres optiques aujourd'hui. Donc, ça fait rêver aujourd'hui ceux qui travaillent avec des fibres optiques qui sont très fragiles, nos fibres optiques. Mais ça existe déjà chez la corbeille à Vénus. Un petit organisme vivant des plus primitifs, qu'on nous dit. Je veux bien. Incroyable. La nature parle. Alors, on pourrait parler aussi d'interaction maintenant entre êtres vivants. Quand on voit des nuages d'oiseaux qui se déplacent à grande vitesse, là aussi, on se dit qu'il y a quelque chose à apprendre dans la nature parce que quand on voit les embouteillages à Paris et tous ces véhicules qui essayent d'interagir entre eux, en général, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait pas mal d'accidents. Mais quand ces oiseaux se déplacent à grande vitesse, il y a une interaction entre eux et vous ne retrouvez pas des milliers d'oiseaux morts par terre, non? Il y a apparemment un système qui leur permet de s'auto-guider et de s'auto-guider par rapport aux autres. Donc, pour tout ce qui est voiture, développement au niveau des voitures autonomes et tout, il y a des gens qui commencent à plancher sur le sujet et à réfléchir. Je vous ai dit, on pourrait passer des jours à discuter de ça. Une autre particularité, donc on a vu des choses bien spécifiques, la soie de l'araignée, on a vu aussi l'éponge, les fibres optiques. Il y a des choses aussi qui sont étonnantes, c'est que, par exemple, pour le papillon Morpho, Morpho rétinor, un papillon absolument superbe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir des séchés. Moi, j'en ai à la maison. Tiens, c'est bête, je n'ai pas pensé en prendre un. Mais quand vous voyez ce papillon d'un bleu éclatant, vous vous dites, waouh, ça, c'est de la belle couleur. Mais il n'y a pas de colorant à la base de son aile. Il n'y a pas de colorant. Hein. Tout ça, c'est uniquement dû à l'absorption de la lumière qui est faite grâce à une série de couches. Ça, c'est la coupe à travers l'aile du papillon. Et donc, le fait que la lumière va tomber sur ces différentes couches, il y a une partie qui va être de la lumière qui va être absorbée, donc certaines longueurs d'onde qui vont être absorbées. Et ce qui va être reflété, c'est ce qui se correspond à du bleu éclatant. Un bleu éclatant. Et donc aujourd'hui, ça fait réfléchir parce que bon, on pourrait, et on commence à utiliser ça dans les peintures de véhicules. Vous savez, suivant l'angle à laquelle vous regardez la voiture, ben vous n'avez pas forcément la même couleur. Mais ce qui est encore plus ahurissant, c'est finalement, c'est qu'il n'y a pas que cette couleur bleue sur l'aile. C'est que l'aile du morpho de notre papillon, elle a une multifonctionnalité. Elle sert à d'autres choses aussi, d'autres choses que seulement voler et seulement faire que cette lumière, cette couleur bleue sorte. Il y a aussi, elle est extrêmement hydrophobe. Vous savez maintenant ce que c'est. Elle n'aime pas l'eau. Et donc, ce qui va faire que il y a un système auto-nettoyant pour l'aile du papillon grâce à cet effet hyper hydrophobe. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que l'aile du papillon sont structurellement dirigées pour que l'eau va aller vers l'extérieur et pas vers le corps du papillon. Sinon, toutes les crasses, toutes les saletés s'accumuleraient là, au niveau du corps. Non, ça va aller vers l'extérieur. Donc, ôter le nettoyage. Mais encore plus fort, c'est que vous voyez souvent les papillons ils se mettent au soleil et donc ça va leur permettre de se réchauffer comme s'ils avaient besoin de chaleur. Mais le problème, c'est que s'ils restent trop longtemps au soleil, ils accumulent de la chaleur. Or, notre papillon est extrêmement sensible à la température. Passer 40 degrés, ça va aller très mal pour lui. Donc, il faut, tout en restant au soleil, il faut qu'il ait un moyen de réguler sa température. Et il le fait également avec ses ailes, qui lui permettent, au bout d'un moment, d'émettre dans l'infrarouge et donc de se libérer de la chaleur qui pourrait s'emmagasiner sinon dans son corps. Et donc, là aussi, donc une multifonctionnalité qui existe, absolument ahurissante. Alors, si vous voulez, chez vous, construire quelque chose qui ait une superbe couleur, qui soit hydrophobe, qui soit auto-nettoyant, d'accord, et qui ait une régulation thermique, vous pouvez commencer à... vous allez au magasin de bricolage du coin et vous allez commencer à prendre, acheter un pot de peinture, des pinceaux, tout ça, etc. Vous savez, notre papillon, il utilise uniquement 5 éléments chimiques pour réaliser ça. 5 éléments chimiques pour toute cette architecture. C'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement beau et c'est extrêmement performant. Et c'est ça qui aujourd'hui étonne nos ingénieurs, nos designers, nos architectes, nos électroniciens, nos informaticiens, enfin tous ceux qui étudient ça, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on utilise dans nos produits industriels une bonne cinquantaine d'éléments stables qui sont présents sur la Terre. Au niveau de la nature, quand on regarde comment la nature est organisée et comment elle est faite, eh bien, en gros, il y a 6 éléments qui sont utilisés. 6 éléments. Ça fait rêver. Vous savez, on nous parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, de durabilité. Eh bien... La nature, et c'est dans un livre sur le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour innover durablement, il est dit « La nature produit dans des conditions douces en consommant peu d'énergie et sans générer d'effets polluants. » Vous voyez ? Que disait Léonard de Vinci ? « Va vers la nature, c'est là qu'est notre futur. » La nature a une réponse à pas mal de choses. Donc, ce que l'on veut, c'est s'inspirer de la nature dans ce mouvement de la biomimétisme ou bio-inspiration, c'est s'inspirer de la nature pour innover durablement. Et oui, pourquoi ? Parce que si le manchot était un véhicule, il pourrait parcourir 1500 km avec un seul litre de gasoil. Ou au niveau de la communication, si vous regardez les baleines bleues, elles sont championnes mondiales de la communication, puisque en plus d'être les plus grands mammifères, les baleines bleues ont une portée sonore la plus longue au monde. Leur chant peut émettre jusqu'à 800 km. 800 km. Vous vous rendez compte ? Donc, quelques leçons du biomimétisme. On pourrait parcourir la nature maintenant pendant des heures et des heures et des jours. Mais je vous invite à le faire, parce que ce sont des exemples que vous avez sous la main, forcément. Les médias, la télévision, à tout moment, il y a des émissions qui vont vous pointer sur des exemples comme ça. Et c'est ça que l'on peut utiliser. Ça ne remplace pas la Bible, attention, mais c'est ça que l'on peut utiliser aussi avec nos concitoyens pour pointer vers le Créateur. Quelques leçons du biomimétisme. Eh bien, déjà, tout le monde est d'accord. Les plus grands évolutionnistes sont aussi d'accord. Les plus grands athées sont aussi d'accord sur ce point. Les nanostructures, donc l'infiniment petit élaboré par le vivant, excitent notre imagination par leur beauté et l'intelligence qu'elles révèlent. Eh oui, c'est bluffant. Regardez la nature, c'est bluffant quand vous regardez. Eh oui, et ça, tout le monde va vous le dire. Alors après, vous pouvez passer à l'étape d'après, quoi. D'autres disent, mais partout où l'on regarde, à quelque échelle que ce soit, on trouve une élégance, une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. Ouais. Il y a quelque chose qui est ahurissant. Et alors, on est obligé de convenir et de se dire, parce que nous, humains, on se croit vraiment à la pointe de la technologie avec nos disques durs, nos ordinateurs, nos smartphones et tout ça. Mais pour le biochimiste Michael Denton, il dit « À côté du niveau d'ingéniosité et de complexité présenté par la machinerie moléculaire, nos objets artificiels, même les plus avancés, paraissent grossiers. » Mon pauvre smartphone, qui stocke certes beaucoup d'informations, mais à côté de ce qui existe à l'intérieur d'une cellule, eh bien, c'est rien, c'est du pipeau. C'est rien. Alors, face à cela, on peut avoir différentes réactions. On peut se dire, ben oui, le hasard fait bien les choses. C'est ce que vont vous dire les gens autour de vous. Le hasard fait bien les choses. Ou alors on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Et c'est là, je pense qu'il faut qu'on commence à titiller nos contemporains, mais y a-t-il pas là une piste vers une intelligence supérieure ? On va nous dire, mais la nature est parfaite. Mais est-ce que ce n'est pas les traces d'un architecte exceptionnel ? Alors, on va nous dire, oh non, 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 parce que, vous savez, des millions d'années avant l'apparition de l'homme, la vie avait déjà inventé la roue, le moteur atomique, le sonar, le vol stationnaire, la capture de l'énergie solaire, l'électricité, l'éclairage électrique, le GPS et des myriades de techniques qui nous dépassent encore complètement. Cicatrisation, reproduction, congélation suivie de réanimation et des cerveaux dont chacun des milliards de neurones est bien davantage qu'un univers informatique. On me dit, ben ouais, mais vous vous rendez compte de ce qu'on nous avance là ? Avant l'apparition de l'homme, des millions d'années avant, la vie avait déjà inventé la roue, le moteur atomique, le sonar. Tout ce qu'on voit dans la nature, on nous dit, mais ça a existé il y a bien longtemps. Mais comment ? Comment ? Ah ben, au fil des mutations, en passant à travers le redoutable filtre de la sélection naturelle, cette espèce, donc une espèce du monde du vivant, a résolu des problèmes d'une incroyable complexité et aux solutions souvent antagonistes. Comme si une espèce, au cours du temps, pouvait prédire « Ah ben tiens, moi j'ai besoin de ça, donc il va falloir qu'au cours de 1000 générations et au cours de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ans, il faut que je fasse que mes descendants aient cette particularité parce qu'ils vont en avoir besoin dans le futur. » Ah ouais, bien. Alors si ça, c'est le hasard, ça ne correspond pas du tout à la théorie de l'évolution telle qu'on nous la présente. C'est finaliste au possible. Ah non, mais on nous dit, non, non, mais t'en fais pas. Il y a le temps. Et le temps, c'est le héros. Avec beaucoup de temps, l'impossible devient possible, le possible probable et le probable certain. Il suffit d'attendre, le temps lui-même fait des miracles. Parole de scientifique, hein, là. C'est une citation, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. Le temps fait des miracles. Alors, vous savez, je suis gentil parce que j'ai été, pour vous, à côté de Pau, filmer la façon dont on fabrique des hélicoptères. Vous avez déjà vu ça? Oh. Moi, je remplace, il n'y a pas besoin de chaîne de production. C'est tellement facile. Vous avez déjà vu comment on fait des hélicoptères? Si la technologie veut bien collaborer. Ah, vous voyez, hein, j'aurais mis ça sur une araignée, je cliquais, c'était déjà bon, quoi. Alors, on va refaire. Mince alors. Ah si, voilà. Croyez que les hélicoptères, ça se fait comme ça? Déjà, là, on a un avantage. Toutes les pièces sont arrivées telles quelles, hein, de l'espace, mais elles étaient entières. On n'a pas eu besoin de les fabriquer. Mais après, elles se sont auto-assemblées sans aucun problème. C'est ce qu'on nous sert aujourd'hui. Et c'est ce qu'on nous resserre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va continuer à nous servir aujourd'hui. Quand on regarde l'infiniment grand, on doit se dire qu'il y a un réglage précis de l'univers. Et Arnaud Penzias, qui a eu un prix Nobel en 1978, nous dit « L'astronomie nous mène à un événement unique, un univers créé à partir de rien, délicatement équilibré pour fournir exactement les conditions exigées pour soutenir la vie. » Et puis il continue en disant « Mais en l'absence d'un accident absurde et improbable, les observations de la science moderne semblent suggérer à la base un plan surnaturel. » C'est tellement beau que ça ne peut pas être autrement. Mais déjà, Newton nous disait des choses comme ça. Newton disait que les relations merveilleuses entre le Soleil, les planètes, les comètes ne peuvent exister que selon un plan et des instructions d'un être omniscient et omnipotent. Mais alors, face à toutes ces évidences, la nature parle, on est d'accord. Face à toutes ces évidences, que font nos contemporains? Eh bien, la même chose que du temps de Victor Hugo. Victor Hugo disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Et j'ai trouvé cette phrase terriblement vraie encore aujourd'hui. Terriblement vraie. Avec toutes les capacités que nous avons d'investiguer le monde du vivant, l'infiniment grand, l'infiniment petit, eh bien, on n'a pas retenu la leçon. On est exactement au même point. La nature parle, le genre humain n'écoute pas. Qu'avons-nous lu tout à l'heure? Interroge les bêtes, interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront. Les oiseaux, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'enseignera. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve qu'il y a un créateur? Eh oui! Et Romains 1, 18 nous dit la même chose. Romains 1, 20, pardon. « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent, la nature parle, nous disait Victor Hugo, à la pensée, à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. » Et l'apôtre Paul continue en disant « Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. » Et donc, il y a une chose évidente à savoir et à proclamer, c'est que la nature parle, oui, mais pourquoi elle parle? Parce que Dieu, dans la nature, nous a laissé son CV. Il nous a laissé son curriculum vitae, Dieu. Et donc, les œuvres, quand vous voyez, vous savez, moi, j'étais, ce printemps, j'étais à Singapour, et je vois l'hôtel Marina Bay, et c'est un immense hôtel sur trois piliers où il y a une espèce de bateau en haut, mais de plusieurs dizaines d'étages de haut, absolument phénoménal. Et quand vous avez l'architecte, quand vous connaissez le nom de l'architecte, il n'a pas besoin de faire un long CV, ce gars-là. Il donne une photo, voilà ce que j'ai construit à Singapour, voilà ce que j'ai imaginé. Ben vous dites, ouais, c'est un gars qui tient la route, quoi. Et là, aujourd'hui, les œuvres du Créateur nous parlent. On a vu quelques petites bribes des œuvres du Créateur. On aurait pu parler de termites, experts en génie climatique, la feuille de lotus, on en a parlé, le Martin Pêcheur. La moule, ça a fait la une des journaux il n'y a pas longtemps, cet été. Pourquoi? Parce que la moule produit de la colle pour s'agripper aux rochers, mais qu'on aimerait bien pouvoir utiliser aujourd'hui. Vous vous rendez compte si, au lieu de travailler avec votre Patex ou je ne sais pas quel autre type de colle, quand vous reprenez la notice, vous lisez « Ah, attention, il faut que les deux surfaces soient bien sèches. » Et donc, vous devez « propre et sèche », d'accord? Donc, il faut... Et la moule, elle ne s'inquiète pas de ça. Sous l'eau, elle se colle et c'est du costaud. C'est du costaud. Le thon pour le fuselage des avions, on n'a pas parlé sur la congélation et tout ça, mais je vous dis, on pourrait passer des jours, des semaines, des années, des décennies à parler des merveilles du Créateur. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Parce que nous avons un Créateur hors pair. Hors pair. Et vous savez, ce qui est assez... Si on réfléchit un petit peu là-dessus, vous savez, Dieu n'a jamais pris de cours de C++, de Java, de Perl, de Python ou quelque autre langage de programmation. Non. Mais il est expert en programmation. L'information au sein d'une cellule le prouve. Et donc, on a des milliers de raisons de le louer, d'apprendre à mieux le connaître. Et si on prend ce temps-là, on va le découvrir en tant qu'architecte, ingénieur aéronautique, biologiste hors pair, prix Nobel de physique, de médecine, de chimie, médaille d'argent du CNRS, grand spécialiste des nanotechnologies, etc., etc. Et en plus, plus important, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Mais quand on voit tout ça, quand on voit l'homme aussi qui cherche à imiter ce qui existe dans la nature, je me suis posé la question, mais qu'en est-il des droits d'auteur? Qu'en est-il des droits d'auteur? On cherche à copier ce que le Créateur a fait, mais sans le reconnaître en tant que tel aujourd'hui. On va loin. Et là aussi, Dieu est très clair dans sa parole. Il nous a laissé non seulement son CV dans la nature, mais il nous a laissé aussi sa parole. Et Dieu revendique son droit d'auteur. Dieu revendique son droit d'auteur quand il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Il continue en disant aussi dans Galates 6 « Ne vous faites pas d'illusions sur ce point, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui, on récolte toujours ce qu'on a semé. » Donc ça, c'est aussi un message qu'on doit faire passer aujourd'hui à nos contemporains. Dans Romains 1, les versets 21 à 23, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » C'est ce que nous avons aujourd'hui. Je vous ai parlé du biomimétisme. Il faut savoir qu'il y a un courant du biomimétisme qui s'appelle biomimicrie. Alors, il y a quelque temps, il s'appelait biomimicrie. Ils organisent des séances de travail, ils publient des ouvrages, ils organisent des séminaires, des voyages d'études pour diverses personnes pour aller justement observer la nature. Et je les ai suivis un peu depuis le début. Alors, c'est formidable, je me suis dit, biomimicrie, quand ils font ça, mais ils doivent reconnaître qu'il y a un créateur, quoi. Et puis, très vite, ils ont changé leur nom en se disant biomimicrie 3,8. 3,8. Pourquoi? C'est pas la version, non. C'est pour dire que finalement, la vie a commencé sur notre Terre il y a 3,8 milliards d'années. Donc c'est pour qu'on ne puisse pas faire l'amalgame avec quelconque courant créationniste ou quoi que ce soit, pour se démarquer. Et donc le jeudi 25 février 2016, il fêtait la vie. Joyeux anniversaire vie, parce que pour eux, si vous placez l'image, l'échelle du temps sur une année, eh bien la vie, donc les 15 milliards depuis le commencement, comme ils le disent, non, l'âge de la Terre, pardon, depuis les 4,5 milliards d'années de la Terre sur une année, eh bien le 25 février correspondrait au début de la vie sur Terre. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait leur journée spéciale pour se faire un coup de pub. Mais vous rappelez le verset de Romains qu'on a vu tout à l'heure? On va peut-être juste le revoir. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. En même temps que ça, sur leur page, sur leur site internet, ils sortaient toute une série d'images, bon anniversaire, glorifiant les animaux. Tu es un conseiller génial, caméléon. Merci de nous enseigner la création de systèmes optiques améliorés. Ta vision ultraviolette, tes paupières protectrices et leurs mouvements indépendants sont inégalés. On est tout à fait dans glorifier la création au lieu du créateur. On se trompe de cible, se trompe d'objet complètement. Et combien on a besoin aujourd'hui de revenir à ce message central qui est le créateur, qui a un but, un objectif pour sa création, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais surtout qu'il y a un plan d'amour avec chacune de ces créatures que nous sommes. Et voilà le message que nous devons faire passer. Et donc, en conclusion, j'aimerais vous dire deux choses. Dieu nous encourage à lire son CV. Dieu vous encourage à lire son CV. Bien sûr, il vous encourage aussi à lire sa parole. Je ne veux pas vous détourner de la lecture de la parole de Dieu. Mais lisez le CV de Dieu aussi dans la nature. Ça vaut la peine. Et surtout, ça vous permet d'avoir pas mal d'idées pour partager ce que Dieu fait, que notre Dieu fait, de façon si merveilleuse. Mais la deuxième chose, c'est Dieu revendique ses droits d'auteur. N'oublions pas ça aussi. Dieu revendique ses droits d'auteur. Et nous avons besoin aussi de rester pleinement à notre place. Et notre place, je trouve, est merveilleusement exprimée dans le psaume 8, quand le psalmiste dit « Mais je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, je me demande, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? » Nous avons besoin d'être avec plein d'humilité, être à notre place devant notre Créateur, en le remerciant d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver. Et puis surtout, en lui rendant un culte pour tout ce qu'il a fait, et ce culte, nous le trouvons aussi décrit dans Apocalypse 4, « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toute chose existe. » Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, mais... Oui. Oui, mais je... Non, ce n'est pas un Dieu froid, je pense. C'est comme... on est créé à l'image de Dieu. Quand nous, on fait quelque chose, on a du plaisir à le faire, on est content par ce qu'on a fait aussi. Et je pense que c'était... Oui. En plus, avec Tout-Puissant, on pourrait dire, entre guillemets, il s'est bien amusé. Hein, c'est... Ah oui, non, mais... Quand on voit tout ce qui est fait de la façon aussi géniale, c'est formidable. Et il a vu ce que c'était bon, oui. En plus, c'était bon. Ouais, ouais. Hein, c'est... Mmh. Bien sûr.
Mmh. On traçait un rond, on mettait le noyau, les ribosomes, etc. Les ribosomes. Et aujourd'hui, on dit que la cellule est plus compliquée que l'île de New York.
Mmh. Bien sûr.
C'est d'abord énergétique, c'est l'évacuation, c'est le transport, etc.
Mmh. Ah, tout à fait. Et puis le noyau de la cellule, avec tout ce qui est la molécule d'ADN et tout ce qu'il y a dessus de codé, c'est. Oui, tout à fait. Mais on ne veut pas le reconnaître aujourd'hui. Enfin, une grande partie de nos concitoyens, de nos contemporains ne veulent pas reconnaître ça. Oui ?
Est-ce que le mouvement de la conception intelligente,
Intelligent design, oui.
Comment ça va venir en Europe ? Comment on l'accueille ?
Ça fait du bruit en Europe. C'est accueilli plutôt froidement parce que ça va à l'encontre de ce que l'on croit, notamment en France aussi. Enfin, de ce que la pensée unique qu'on souhaiterait nous imposer. Le fait... Donc le intelligent design, c'est un petit peu de dire, mais voilà, on observe dans la nature des choses tellement complexes que ça ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Et c'est vrai, il y a de plus en plus d'exemples. Plus on fouille dans le monde du vivant, plus on s'aperçoit de ces choses-là. Donc ça devient bientôt une évidence. Et pourtant, il y en a encore, et notamment en France, on refuse ça. On refuse ça. Et surtout, on va rejeter... ce qui amène ces idées-là. Vous savez, il y a un exemple qui s'est passé récemment en Allemagne. Un conservateur d'un musée qui était spécialiste des fossiles dans l'ambre, enfin des restes d'animaux dans l'ambre, et donc c'était une pointure dans sa discipline. Et il y a quelques années, lors de l'anniversaire pour la parution du livre de Darwin, il s'est dit, il était évolutionniste, hein. Il s'est dit, tiens, on va faire une exposition. Et puis, il a eu comme idée pour son exposition de faire une balance. D'un côté, de mettre tous les ouvrages de ces gens de l'intelligent design. Okay. Donc, il a commandé quelques bouquins. Et puis, de l'autre côté, mettre juste un seul bouquin de Darwin. Et donc, de faire pencher la balance, bien sûr, du côté de Darwin, pour montrer que n'importe... même si vous entassez 20 kilos de bouquins... par rapport aux quelques grammes de Darwin, c'est Darwin qui a plus de poids. Et puis, cette personne-là a commencé à lire ses livres sur l'intelligent design. Il a complètement rejeté Darwin. Complètement. Il s'est converti et il a dû quitter son boulot. Ils lui ont rendu la vie impossible. Et cette personne qui était référencée dans Wikipédia, avec tout ce qu'il avait fait. Alors, aujourd'hui, on trouve son site, enfin, son référencement Wikipédia en allemand, mais en anglais, ça a été complètement effacé. On ne veut plus parler de lui. Donc, voilà comment on perçoit et on reçoit aujourd'hui les gens qui pensent autrement que par le darwinisme, ou le néo-darwinisme, ou la pensée unique qu'on veut nous imposer. Mais je pense que ça ne pourra pas durer éternellement, ça. Déjà, Dieu va intervenir à un moment ou l'autre, mais même avant ça, devant les temps d'évidence. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous, chacun d'entre nous, nous commencions à parler à nos proches de toutes ces choses-là, et de les interpeller sur ces merveilles de la nature, de leur dire, mais réfléchis, d'où ça vient? Est-ce que ça peut venir par hasard? Simplement leur poser la question. Peut-être une ou deux rencontres plus tard, on pourra leur parler d'un créateur, mais simplement semer le doute dans leur esprit. Ou déjà leur dire, mais réfléchis un petit peu. Voilà, oui.
Qui permettrait pour eux scientifiquement d'expliquer toutes ces choses.
Pour eux, il faut que ce soit le hasard, et le hasard pur et dur. Pourquoi ? Parce que s'il y a la moindre notion de finalité, ça veut dire qu'il y a une pensée là derrière, un objectif. Et ça, ça ne va plus déjà. Donc il faut vraiment que ce soit le hasard. Donc c'est pour ça que cette biomimicrie 3.8, là, ils vont vous dire, ben voilà, on étudie le monde du vivant aujourd'hui pour en tirer des conclusions, des améliorations. Pourquoi ? Parce que la vie, au cours de 3,8 milliards d'années, a réalisé toutes ces expériences, essais, erreurs, et a pu sortir le meilleur. C'est comme ça qu'ils l'amènent. Oula ! Pour croire ça, il faut quand même... Ouais. Je sais pas, mais moi, si je monte dans un... Je prends souvent l'avion. Si l'avion s'est construit par hasard, je vais peut-être hésiter à monter dedans. Hein ? Bon. Enfin, ou les réacteurs. On voit déjà même ce qui se passe avec les réacteurs qui sont bien construits, qui sont bien suivis. Des fois, on est obligé d'atterrir au Canada. Hein ? Mais bon. Voilà. En tout cas, partagez les merveilles de la nature avec vos contemporains. Merci de votre attention. Je te laisse continuer.